Et c'est maintenant la chronique de Valérie Roberts. Bonjour, Madame Roberts.
J'adore quand tu francises mon nom, Bernard. Je trouve ça extraordinaire.
Oui, je sais. J'ai mon petit accent parisien ce matin.
Oh, j'adore, j'adore. On s'imagine en France.
Oui, pareil. Alors, dis-moi, on commence avec, évidemment, la controverse autour de Guillaume le Métis Vierge.
Oui. Là, évidemment, je suis persuadée que nos auditeurs en ont entendu parler une fois puis un autre. Hein, mettons, c'est ce qu'on va dire. Fait que là, on fait un petit rappel rapide de ce qui s'est passé. Guillaume le Métis Vierge, cette semaine, on apprend dans la presse donc qu'il n'a pas reçu ses deux doses de vaccin contre la COVID-19 et que par le fait même dû à ça, il a renoncé à des contrats pour réaliser des épisodes de District 31. Oui. Et là, la grosse nouvelle aujourd'hui, la raison pour laquelle on en parle rapidement, c'est qu'il a soumis une déclaration officielle aux médias, donc dans la nuit là, de jeudi à vendredi. Il dit qu'il n'est pas adéquatement protégé par l'obtention d'un vaccin actuellement, mais il dit qu'il se renseigne beaucoup sur des vaccins, qu'il veut se sentir confortable dans sa vaccination, que la disponibilité d'un vaccin qu'il voulait avoir était prévu en septembre, mais que là, l'homologation du vaccin en question explique le fait qu'il n'a pas ses vaccins, qu'il n'a pas son passeport vaccinal, que c'est une information qui n'aurait jamais dû se retrouver sur la place publique. Et donc, aujourd'hui, il dit que c'est une situation qui a pris des proportions démesurées. Il ne veut pas faire d'entrevue, pas faire de commentaires à ce sujet-là. Mais il y a Hyundai Canada qui, eux, ont dit, nous, on va avoir besoin de clarification par rapport à sa position. On est en désaccord avec les commentaires qui ont été attribués à Guillaume le Métis Vierge, comme la presse l'a rapporté.
Oui, on est en désaccord dans le sens où on n'aime pas que notre porte-parole soit pas vacciné.
Moi, exactement.
C'est ce que j'ai compris.
D'autant plus que dans la presse qu'on apprenait cette semaine, c'est qu'il avait potentiellement contacté des gens du milieu, d'autres artistes, pour leur dire que c'était du lavage de cerveau, la campagne contre les mesures sanitaires et pour le passeport vaccinal.
Ouais.
Fait que je pense que c'est peut-être ça aussi qui dérange Hyundai. Puis, je veux dire, on peut les comprendre. C'est pas une opinion qui est valorisée actuellement. Donc, je pense que ça peut être une situation qu'on va continuer à suivre dans les prochains jours. Peut-être pas en fin de semaine, mais en tout cas, la semaine prochaine, ça se peut qu'on s'en reparle, Bernard.
Donc, il dit pas « je vais pas me faire vacciner », il dit « je suis pas satisfait ». Je suis pas encore assez rassuré sur les vaccins existants, puis je veux continuer à m'informer.
Ouais.
Puis il y a un vaccin que j'avais en tête, mais il est peut-être pas encore homologué.
C'est ce que
je comprends.
En gros, là, c'est ce que tu dis, plus le fait que lui, il soutient qu'il veut aller à son rythme, que c'est ce qu'il fait dans toutes les sphères de sa vie,
ouais,
que c'est un processus décisionnel où ça lui prend peut-être un petit peu plus de temps, mais que lui, c'est ce qu'il veut faire.
OK. Puis il dit en attendant, sacrez-moi à paix, puis surtout, c'est pas de vos affaires.
Ça n'aurait pas dû être public. Lui, en gros, là, c'est son point le plus important.
Ça se passe dans ma tête. Laissez-moi aller à mon rythme.
Exactement.
C'est ça son argument.
Ouais.
On va laisser les auditeurs et les auditrices juger de ça.
Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que c'est une bonne explication ou pas? On verra. Bon.
Ouais.
Bon, alors Nirvana, 30e anniversaire aujourd'hui de l'album Nevermind. Plusieurs chansons très connues, dont une en particulier. On reconnaît, ça a marqué l'histoire du rock.
Non seulement l'histoire du rock, Bernard, mais tu sais, je veux dire, ça, c'est un album punk rock. Ça sort le 24 septembre 91. C'est le deuxième album studio de Nirvana. Et à ce moment-là, Kurt Cobain écrit, compose quasiment toutes les chansons de l'album. Et dès que ça sort, il y a la tune Smells Like Teen Spirit qui devient un hit partout sur la planète. C'est drôle parce que ça devait pas être un hit à la base. C'était comme As You Are, une autre chanson qui devait être un hit. Mais quand c'est sorti, cette chanson-là, ça a beaucoup fait jaser. Puis là, ce qui est drôle, ce qui m'a fait sourire, c'est sur les réseaux sociaux, ce qui se partageait dans les derniers jours, c'était l'histoire de Nirvana à Montréal. Est-ce que tu l'as assez, cette histoire-là?
Non, mais okay. J'aimerais bien la connaître.
Le disque Nevermind sort en 91, mais on se ramène en 90. Un an plus tôt, Nirvana présente un concert au Foufoune Électrique, un bar mythique sur rue Saint-Laurent. À l'époque, il y a entre 50 et 60 personnes à peu près qui se déplacent pour voir Kurt Cobain puis sa gang. Comme je te dis, on est avant la sortie de Nevermind, fait qu'ils sont connus, mais à peine connus, tu sais. À ce moment-là, est-ce que tu sais combien Nirvana a été payé pour faire le concert?
Non, mais tu sens que tu vas me le dire.
Ben, check-moi bonne allée. 319 $ canadiens. C'est le cachet qu'a reçu Nirvana pour présenter un concert. Puis le plus fou dans tout ça, c'est qu'il devait se présenter à Québec, voire même un an avant la tournée. Mais il y a un festival qui s'appelle maintenant Envol les Macadam qui avait refusé de booker le groupe parce que Kurt Cobain demandait 500 $ US et on dit ça vaut pas la peine, ça.
C'est bon.
Hey, c'est-tu assez incroyable? Mais... Fait, finalement, le concert mythique de Nirvana, ben, c'est au Fofone Électrique et pas au festival, donc à Québec, que ça s'est passé. Mais c'est un anniversaire important pour l'univers de la musique rock. Là. Quand le disque Nevermind est sorti, on avait du rock, mais une rythmique qui était accrocheuse, des paroles de chansons qui étaient difficiles à interpréter par un gars un peu bizarre, grunge. Ça a vraiment, vraiment, vraiment changé l'univers de la musique.
Est-ce que je peux te demander, quand ils sont allés au Fofun, là, est-ce qu'ils ont joué certaines des chansons de l'album Nevermind?
Ben, assurément, parce qu'ils venaient tout juste de rentrer en studio pour pouvoir enregistrer les chansons. Fait qu'à ce moment-là...
les chansons comme celles qu'on vient d'entendre, là, qui s'appellent encore, c'est quoi le titre?
Smells Like Teen Spirit qu'on a entendu.
Ça se pourrait-tu qu'ils l'ont joué ce jour-là? Quand ils sont allés au Fofun?
Assurément. À ce moment-là, ils étaient en train d'enregistrer avec leur producteur. Puis on sait que Smells Like Teen Spirit puis Come As You Are, donc deux des plus gros hits de Nirvana, étaient sur des cassettes à ce moment-là et étaient entre les mains du producteur qui finalement a dit « Oui, oui, c'est bon. Je trouve ça bon. Je pense qu'on devrait les enregistrer. » Et donc, l'histoire, tu sais, c'est la suite. Je trouve ça tellement beau de parler de ça. Je veux dire, je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui vont pas triper sur Nirvana, puis c'est bien correct, tu sais, mais de comprendre l'importance d'une formation comme celle-ci dans l'histoire de la musique, comprendre que, tu sais, quand on va en banlieue de Seattle, il y a une ville qui s'appelle Aberdeen, c'est la ville où est né Kurt Cobain, et quand t'arrives là-bas, c'est tellement ancré dans la culture populaire qu'il y a une grosse pancarte sur laquelle c'est écrit « Welcome to Aberdeen, Come As You Are », donc le titre de la chanson de Nirvana. C'est de l'histoire populaire, c'est de la culture populaire Nirvana. Donc aujourd'hui, 30e anniversaire du disque Nevermind.
Moi, je vais te dire, là, s'il y a une des 50 ou 60 personnes qui étaient au Fofun le jour où Nirvana est passé, là, écoute, moi, j'aimerais ça faire une entrevue avec une personne qui était là, puis nous dire comment c'était, puis écoute, ça pourrait faire une belle histoire.
Écoute, tu devrais, Bernard, chercher Marc Quateux. Marc Quateux, c'est un journaliste à l'époque de Musique Plus. Il a travaillé là-bas à l'émission Fax. Il est le seul journaliste qui a fait une entrevue avec Nirvana au Québec. Moi, je chercherais Marc Quateux à ta place.
OK, mais pas le jour où il était au Fofun, là. Parce que Nirvana sont revenus au Québec après, j'imagine?
Ils sont revenus au Québec par la suite, mais Marc Quateux, c'est la seule personne qu'ils ont rencontrée.
Donc, avec Cobain.
Exactement.
Ben ça, c'est une bonne idée, ça.
Ah oui.
C'est une bonne idée, ça. OK, parlons de Soprano. Le retour de la série Les Sopranos, c'est une suite. Alors, juste pour vous remettre dans l'esprit des Sopranos, le générique, le thème. J'ai trippé, Ah! Puis j'ai réécouté Les Sopranos, puis une fois, puis deux, puis trois. Honnêtement, là, c'est dans mon top 5, peut-être même dans mon top 3 des séries télévisées avec West Wing. Peut-être même ma écoutez, si vous avez pas vu Les Sopranos, toi, t'as pas vu Les Sopranos, Valérie Roberts.
Je le sais. Quand le pire, là, c'est que chaque année, je me dis, faudrait que je regarde Les Sopranos. C'est tellement une série mythique. Une série qui a 86 épisodes. Ça a été diffusé entre 99 et 2007 sur HBO. Puis, tu sais, je veux dire, il y a eu un succès commercial dans le sens où des gens comme toi, Bernard, ont capoté sur la série, mais il y a aussi eu un gigantesque succès critique. On dit que c'est un des plus grands succès financiers, premièrement, de l'histoire de la télévision.
Ouais.
On dit que plusieurs critiques trouvent que c'est la plus grande série de télé de tous les temps.
Voilà.
Puis on dit que le niveau artistique de cette série-là, c'était tellement grand que ça a pu inspirer des séries comme Game of Thrones, par exemple, des séries à très grand déploiement.
C'est
vraiment un classique de la culture américaine des années 2000. Et là, ce qu'on apprend, c'est que 14 ans après la diffusion du dernier épisode original de la série Les Sopranos, on va présenter un film. Un film qu'on qualifie de prequel, donc qui se passe avant la série originale. On retrace les années de jeunesse du futur boss mafieux qui était joué donc par James Gandolfini, Tony Soprano.
Voilà.
Et là, ce qui fait capoter tout le monde, Bernard, je suis persuadée que tu le sais, c'est que le jeune Tony Soprano est joué par le véritable fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini.
Je trouve ça trippant.
C'est vraiment trippant. Le gars a 22 ans et c'est lui qui joue son père quand il était jeune. Et donc, ça va vraiment être un film assez, j'en suis persuadée. Ouais. Écoute, hier, on a présenté les premières images au Beacon Theater à New York. Le film s'appellera The Many Saints of Newark. Et il paraît que la salle de spectacle, ça a pris des allures de stade. Tout le monde criait, capotait. On n'en revenait pas. Donc, allez regarder ça. Allez vous renseigner The Many Saints of Newark.
J'ai très hâte de voir ça.
Je pense que...
Bon. Alors, Patrice Michaud, qui lance son 4e disque aujourd'hui. Honnêtement, tu me l'as fait connaître. Bon, j'en avais entendu parler, mais là, j'ai pris le temps d'écouter sa musique. Écoutez l'extrait de la chanson « Vous êtes ici », c'est superbe.
Et pourtant, chaque nuit, je pleure et je me dis à qui ce corps qui traîne dans la rue. Parmi les milliers d'invendus.
Non, mais tu sais...
Écoute!
Quelle orchestration quand même, hein? Mais je trouve ça cool parce que Patrice Michaud, pour ce disque-là, qui s'appelle donc « Grand voyage désorganisé » qui sort aujourd'hui, il l'a dit. Moi, ce que j'ai voulu, c'est m'amuser. Je me rappelle, j'avais parlé dans le cadre de Star Academy. Tu sais, il a été l'animateur de Star Academy la dernière saison. Puis il disait, écoute, j'ai bouleversé mes habitudes de travail parce que je suis rentrée en studio puis j'ai fait une pause pour être capable de pouvoir animer Star Academy. Puis à tous les jours, je retourne quand même en studio. Puis là, je capote. Je travaille avec Alex McMahon, qui est un réalisateur exceptionnel qu'on a ici au Québec. Puis il dit vraiment, je m'amuse plus que jamais. Je pense que ça s'entend vraiment sur Grand Voyage désorganisé.
Ah,
fait que
vraiment?
Patrice Michaud, ça sort aujourd'hui. Là, gâtez-vous en fin de semaine et écoutez ça.
Ah non, c'est... Écoute, le début de la chanson...
C'est
là,
beau, hein?
Il y a un petit côté Arcade Fire là-dedans.
Ah oui, il y a
ah,
beaucoup.
Oui. Ah,
il y a
écoute,
un très, très grand travail d'orchestration sur ce disque-là. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est aussi magnifique puis qu'on comprend encore plus peut-être l'univers de Patrice Michaud.
Non, non, c'est vraiment très, très beau.
Oui.
Ben c'est comme ça que ça se termine, ma chère Valérie. Je te souhaite un très bon week-end avec ta petite Lucy in the Sky.
Oui, on va écouter les Beatles ensemble puis on va triper, Bernard. Bon
salut,
week-end à toi aussi.
À vendredi prochain. Merci à Larry Dufresne. Merci à Maryse Duchesneau. Merci à Alexandra Pouliot. C'est ma super équipe. Fred Perron nous a donné un coup de main à la technique cette semaine. Fadois Lapierre également a été là une journée à la recherche. Merci à vous deux. Et merci, cher public, d'être là. Prenez soin de vous. On passe une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. Ciao tout le monde.